Merci pour ces chants qui sont autour du thème de cet après-midi, la croix, la crucifixion, la mise à mort de Jésus. Elle est racontée dans les quatre évangiles. Elle fait partie du credo de l'Église, centrale. Tout va vers la croix dans la Bible et tout part de la croix. C'est le passage de notre vie, de notre mort, notre éternité. C'est la clé du ciel, c'est l'avenir de l'homme, de la femme. Cela s'est passé pourtant très loin, dans une obscure province dominée par l'Empire de Rome, la Judée, Jérusalem. Il y a très longtemps, mais cette histoire intéresse les hommes d'affaires, les hommes politiques, les mendiants, les malades, les jeunes, les étudiants, les affamés, tout le monde. Tous sont devant la croix inconsciemment, car il nous sera demandé compte sur ce que nous avons pensé, fait devant la mort de Jésus. Alors il faut la connaître, il faut se la rappeler. Et je vais la lire avec vous dans l'Évangile selon Marc chapitre 15, verset 21. Marc 15, verset 21. C'est la partie de l'Évangile la plus importante. Elle occupe plusieurs chapitres dans chaque évangile. Mais cet après-midi, nous en parlerons de quelques versets seulement. Marc 15, verset 21. Donc avant a eu lieu le jugement devant Pilate, devant le grand sacrificateur, le grand prêtre de la religion juive de cette époque, Caïphe. Le reniement de Pierre, l'abandon des apôtres. Le manque de reconnaissance de la foule, ça c'est un défaut qui nous colle à la peau, guéri, touché, nourri, visité par le Créateur et le Berger du monde. Il n'y a plus personne à la fin. Ah, un cri simplement, crucifie-le. Libère-nous un prisonnier pour meurtre, Barabbas, mais lui, on n'en veut pas. Écoutons maintenant, allons directement sur le lieu de la croix, le calvaire, avec le verset 21. Ils forcèrent Jésus, donc ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant aux sœurs pour savoir ce que chacun aurait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « Roi, le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Nous arrêtons la lecture ici, méditons sur ces petits détails qui vont nous rejoindre dans notre vie d'hommes et de femmes d'aujourd'hui. Et puis nous lirons enfin un dernier verset après, un peu plus loin, dans quelques instants. Ils sont sur le chemin du calvaire, lui et deux autres brigands. C'était connu à l'époque, les condamnés portaient leur croix, dernier raffinement de supplice. Porter leur croix qui représentait la condamnation, pour qu'ils y pensent et que rien ne leur soit épargné, que jusqu'au bout, ils aient dans l'âme l'horreur, la détresse, le désarroi, la mort. Mais pour Jésus, c'est un peu différent. Car Pilate a ordonné qu'il soit battu de coups de fouet. Et il a tellement reçu de coups de fouet qu'il est épuisé. C'est la dernière grâce que l'on va faire à Jésus. Jésus que l'on a condamné, on va lui faire la grâce de porter sa croix. Il aurait mérité des applaudissements sur le chemin du calvaire. Il aurait mérité que l'on jette sur son passage des roses ou des alléluia. Car ce qu'il allait faire là, c'était le salut du monde. On lui a simplement donné comme grâce magnifique de porter sa croix. Et voilà que un homme croise le cortège. Il revient des champs. Il est 8h30 le matin, 8h. C'est un homme matinal. C'est un cultivateur. Il revient de ses champs. Il s'appelle Simon. Simon de Cyrène. Cyrène, c'est la Libye. C'est un Libyen, un Africain du Nord. Et c'est lui qu'on a obligé à porter la croix de Jésus. Vous pensez un instant à Simon qui porte la croix et qui regarde à côté de lui, à droite ou à gauche, Jésus de Nazareth, qui n'est pas beau à voir. Les plus sensibles détournaient le regard, tellement il était défiguré. Défiguré. Cet homme est tout proche de la vérité. Jamais on n'était aussi proche. Il porte la croix de Jésus. Il avait le temps de penser la route qui monte, la Via Dolorosa, est assez longue pour y penser. Il avait le temps de regarder ce Jésus, sans beauté, sans éclat, qui, comme une brebis muette, va vers la mort, sans dire un mot, sans injurier personne. Mais s'est-il vraiment tourné vers Jésus ? S'est-il tourné vers Jésus pour s'interroger, mais qu'a-t-il fait ? Est-ce pour moi ? S'est-il tourné vers Jésus pour croire ? Le miracle et le mystère de cette journée-là. Il avait deux fils, c'est beau d'avoir deux fils, Alexandre et Rufus. À l'époque où les évangiles sont écrits, ils sont connus puisque c'est écrit dans l'évangile, père d'Alexandre et de Rufus. Et on apprend qu'un nommé Rufus, peut-être est-ce lui, eh bien, il est ensuite dans l'église de Rome, beaucoup plus tard. Voyez-vous, on connaît ses enfants à cet inconnu du Maghreb, qui porte la croix de Jésus. Mais lui, s'est-il tourné vers le Seigneur ? Nous passons tous un jour ou l'autre à côté d'une rencontre avec le Seigneur. Tous. Un jour ou l'autre, nous sommes près de la vérité, près du royaume, disait Jésus. Tu n'es pas loin du royaume. Que faisons-nous ? On fait ça parce que ça fait partie de la tradition. Porter la croix, écouter l'évangile. Que faisons-nous ? On peut se poser la question avec Simon de Cyrène. J'arrive au verset 22 que je veux relire avec vous. Ils le conduisirent au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, et lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe. Mais il ne le prit pas. Quand il était plus jeune, il avait 30 ans. À Nazareth, son petit village natal, presque natal, village d'enfance, village de ses jeux, de ses camaraderies, les gens l'ont poussé pour le conduire au bord de la falaise et hop, il a disparu. Jésus, avec étonnement, est passé au travers de la foule et on ne l'a pas revu tout de suite. Là, il ne disparaît pas. Il se laisse conduire, on le conduisit. Il se laisse conduire comme une brebis muette. C'est terrible. Il donne sa vie. Il ne la donne pas comme le soldat qui est fauché sur le champ de bataille de la Marne et qui, en fait, ne donne pas sa vie. Ce furent des gens exceptionnels dans ce qu'ils ont souffert. Mais ils n'ont pas donné leur vie, on leur a pris leur vie. Lui, Jésus, il donne sa vie de lui-même. C'est l'ordre qu'il a reçu de son Père, donne ta vie pour le bien du monde. C'est pourquoi il se laisse conduire. Et c'est pourquoi il va refuser de boire cette potion que l'on a préparée pour lui, du vin et de la myrrhe. La myrrhe, ce n'est pas une lessive. C'est un parfum, un extrait de parfum, une plante. On mettait cela pour endormir, anesthésier un peu les souffrances. C'est encore une grâce qu'on lui donne, et lui n'en veut pas. Le Talmud dit que, le livre des Juifs, que les femmes préparaient toujours du vin avec de l'encens pour faire perdre connaissance à ceux que l'on crucifiait. Lui n'en veut pas. Il veut garder conscience de ce qu'il fait. On ne peut pas aimer inconsciemment. On ne peut pas donner son amour en étant absent d'esprit. Il veut boire la coupe, comme il disait, jusqu'à la lie, jusqu'à la fin, sans que rien ne lui échappe. Ni sa mère qui est à ses pieds, ni Jean, ni le bourreau, ni les bourreaux, ni les malfaiteurs autour de lui, ni la foule, ni Dieu, ni personne. Il veut vivre sa mort. Il donne sa vie. On va lire le verset 24. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Ils le crucifièrent. Regardez comme c'est rapidement dit. Je suis toujours étonné que l'Évangile ne raconte pas le supplice de Jésus. Dans certains films, on en rajouterait, on ferait des épisodes. Ici, dans l'Évangile de notre Dieu, on ne parle pas du dépouillement des vêtements qui devait être, avec les plaies à vif et le sang qui coulait, qui devait être cruel. On ne raconte pas la mise sur la croix et le percement des pieds et des mains. On ne raconte pas que pour prolonger la vie, la souffrance, l'agonie, on mettait sous les pieds des crucifiés une cale de bois, un morceau de bois, pour qu'ils reposent leurs pieds, mais pour faire durer le supplice, parfois jusqu'à 2 jours, jusqu'à ce que les oiseaux leur piquent les yeux, la tête, la langue. On ne dit pas. Les écrivains de l'Antiquité, quand ils racontaient la crucifixion, ils étaient remplis d'horreur. C'est un des châtiments les plus cruels qui n'ait jamais existé. L'Évangile ne raconte pas pour attirer notre regard sur le pourquoi de la croix. Pourquoi ? Et peut-être même et certainement pour qui la croix ? C'est surtout ça qui est intéressant. Parce qu'il y a eu dans l'Empire romain des millions de crucifiés. Tous les esclaves qui n'étaient pas très droits, bien rangés, c'était parfois 100 000 croix. À Jérusalem, au moment de la destruction de la ville, 1 million de croix. Et je ne parle pas de tout l'Empire, le temps me manquerait et je ne connais pas tout. La croix, c'était monnaie courante, comme on paye le péage à l'autoroute. C'était une habitude, l'Empire romain était habitué à voir des crucifiés. Mais la croix de Jésus représente un message unique de Dieu. Un message unique dans l'histoire des crucifiés. Un message unique dans l'histoire de l'humanité. Car sur la croix, c'est Dieu qui est crucifié. Dieu, notre Sauveur, pour porter dans son corps nos souffrances, nos erreurs, nos fautes, nos mauvais choix. Et pour faire mourir le mal, et pour nous libérer du mal. Ça, c'est un message qui nous demande de regarder la crucifixion et les détails après. Ça, c'est le plus grand message. C'est pas de dire le sang a coulé comme pour tous les crucifiés. Ses clous, les clous ont percé ses mains comme tous les crucifiés. Mais se dire que celui-là, il vient de Dieu, il est supérieur à tous. C'est le berger de l'humanité. C'est le berger de votre âme. C'est le créateur des mondes qui n'a jamais eu de commencement qui n'aura jamais de fin. Ça, c'est inouï. Oui, mes amis, nous pourrions pleurer sur sa mort cruelle. Nous pourrions pleurer comme les pleureuses de Jérusalem qui le suivaient dans toutes les rues, en pleurant, en pleurant, en pleurant, et en oubliant que c'est Dieu qui fait retomber sur lui notre punition et notre faute à tous. C'est ce que disent les pages de la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament. Ils le crucifièrent, c'est tout. Mais on a tout compris, n'est-ce pas ? Et dans le droit romain, dans la loi romaine, les vêtements du crucifié n'étaient pas très beaux. Souvent, c'était des esclaves. Les vêtements du crucifié, ils étaient donnés aux bourreaux. C'était leur cadeau. Alors, les bourreaux vont jouer aux sœurs, ils vont tirer aux sœurs, ils vont se partager les vêtements de Jésus. C'est une scène tout à fait naturelle. C'était toujours comme ça, depuis des dizaines d'années. Mais les soldats ne savaient pas qu'ils accomplissaient une prophétie de la Bible qui date de 1000 ans avant Jésus. Et cette prophétie, c'est le psaume 22 qui l'a dit. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré aux sœurs ma tunique, double 6, c'est à moi, je l'ai mérité. David a dit cette parole, alors que Rome n'existait pas, qu'il n'y avait pas de crucifixion. Rome n'était qu'un marécage. Et David, 1000 ans avant l'histoire, a raconté le supplice des Romains avec ce détail. On se partageait en tirant aux sœurs les vêtements des crucifiés. Ce qui veut dire pour nous que Dieu a tout vu d'avance. Tout ce qui se passe devant la croix, la tunique d'un seul tissu, les soldats et leurs moqueries, l'aider, votre âme et votre vie. Tout, Dieu a tout vu ce qui se fera devant la croix. Aujourd'hui, nous sommes devant la croix. Quand je vous parle de Jésus crucifié, eh bien c'est que nous sommes devant Jésus crucifié et ressuscité. Amen. Nous y sommes. Voilà. Qu'allez-vous faire ? Ne jouez pas aux sœurs votre vie. Ne jouez pas aux sœurs votre éternité. Ne prenez pas de risques. Toujours impressionné de voir les gens qui se jettent dans le vide. C'était au Brésil, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui s'est jeté là. Il était équipé. Je me dis, jamais je pourrais faire ça. Je n'en suis pas capable. Mais surtout, pour le risque de périr, le risque de périr, on joue sa vie. Plus grave, on joue son avenir. Et notre avenir, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous fera entrer dans le royaume, personne d'autre. Accueillons le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Le verset suivant, le 25, petit détail de l'évangile qu'on retrouve chez Matthieu, chez Marc et chez Jean. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. Qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit 8h, 9h le matin, la troisième heure ? Pourquoi ce petit détail ? Tous les évangélistes ont relevé les heures du début, crucifié à 9h le matin, à midi c'était la nuit partout, à 3h l'après-midi c'était la mort de Jésus. Oui, il est dit dans l'Ancien Testament, chez le prophète Amos, « Je ferai coucher le soleil à midi ». C'est pas banal quand même. Vous avez déjà vu ça ? On a vu des éclipses, mais le soleil qui se couche à midi. « Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique », livre du prophète Amos. Ce qui veut dire que le Seigneur Jésus donne sa vie à un temps marqué, aux heures fixées, à l'instant prévu. C'est pas la politique qui se fait là. C'est pas les autres qui décident, c'est pas le hasard. Il donne sa vie aux heures prévues. Et nous, quand nous décidons de donner notre vie pour le Christ, de lui dire « Seigneur Jésus, je te fais confiance pour la suite de ma destinée. » Eh bien, nous verrons plus tard qu'à cette heure même, Dieu avait tout préparé, tout prévu. Dieu nous attendait. Dieu n'est pas surpris quand quelqu'un l'invoque. Dieu ne dit pas « Je ne t'attendais pas. » Je t'attendais ce jour-là, au jour de la grâce, au temps favorable, je t'ai secouru. Dieu vous attend aujourd'hui, à la 9e heure. Amen. La 9e heure, c'est 15 heures. Elle est un peu passée, excusez-moi, mais c'est l'heure quand même de vous décider. Dans la Bible, le temps commence avec le soir. Donc, le lundi 4 novembre, ça commence ce soir vers 17 heures. Donc le lundi commence ce soir à 17h. Dans la Bible, on commence d'abord par le soir, ensuite vient le matin. À la croix, c'est d'abord la nuit, ensuite c'est le jour de la résurrection. Dans notre vie aussi, ça commence par la nuit et ça va vers le jour. Notre vie commence par la mort et finit par la vie. Ça, c'est le sens, c'est la vérité. Le sens juste, comme Dieu voit les choses. Notre temps est aussi prévu, il est compté, il est mesuré. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Et vous ? Pendant que nous en avons l'occasion, autant qu'on peut dire aujourd'hui, réconcilions-nous avec le Christ. Demandons-lui pardon pour la purification de nos fautes, de nos erreurs, de nos manquements. Et mettons nos mains dans ses mains. Amen. Un autre détail, au verset 26, l'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. On mettait toujours sur la croix un petit écriteau en bois qui disait le motif de la condamnation. Ça rajoutait dans le raffinement, supplice, violeur, voleur, le panneau, criminel, terroriste, aujourd'hui on dirait terroriste. On indiquait le péché, le crime du condamné à mort. Pilate, pour se moquer peut-être aussi pour montrer qu'il n'avait trouvé aucun crime. Il le dit lui-même, mais je ne trouve aucun crime dans cet homme. Pourtant, c'est un homme un peu coriace, Pilate. Il est connu comme ça dans l'histoire, le préfet de la Judée. C'est quand même pas rien. Je ne trouve aucun crime. Alors peut-être pour s'amuser un peu avec cela, il écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs », en hébreu, en grec, en latin, pour que tout le monde lise bien. En voulant dire, ce n'est pas une raison pour condamner un homme quand il s'appelle roi. Est-ce qu'on va condamner tous les rois et tous les présidents comme ça au fur et à mesure ? Moi, je crois qu'il aurait fallu écrire sur le panneau au-dessus de la croix de Jésus nos vols, nos mensonges, nos méchancetés, nos hypocrisies, nos manques de reconnaissance. Parce que sur la croix, le Christ a pris nos péchés. Il est devenu péché lui-même. Et c'est à cause de nos péchés qu'il prenait sur lui qu'il a été jugé à la croix par Dieu lui-même. Mystère qu'il ne nous ait pas demandé de comprendre et d'analyser philosophiquement, psychologiquement. Non, simplement de l'accueillir avec reconnaissance. C'est le remède de Dieu. Ce n'est pas votre remède à vous. Quand je vais chez le médecin, je ne prescris pas l'ordonnance. Vous devriez me donner ça et ça. Le docteur me dirait, c'est moi le médecin, excusez-moi. Je vous recommande ceci et cela, n'est-ce pas ? Je pense personnellement que sur l'écriteau de la croix, comprendre la crucifixion de Jésus, pour comprendre la mort de Jésus, il aurait fallu mettre toute la Bible. Toute la Bible. Pour expliquer pourquoi il est mort. mais le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Et avant que ce soit écrit, il est mort. Et avant que l'on comprenne, il est mort. Et avant que vous compreniez, il faut que vous l'acceptiez. Et avant de comprendre, il faut le recevoir. Et après, on comprend pour mieux l'adorer et mieux le servir et mieux le suivre. Parce qu'on aime, on peut aimer ce que l'on comprend. Oui, il aurait fallu mettre la Bible au-dessus de sa tête. Parce que c'est la Bible qui permet de comprendre la croix. Et c'est la croix qui permet de comprendre la Bible. Si vous enlevez la Bible de la croix, je n'y comprends plus rien. L'Ancien Testament est obscur. Tout devient un conte bleu. Je ne vois plus le chemin. Mais la croix est là depuis le commencement, quand Dieu dit à Adam et Ève qu'ils écraseraient dans la descendance, dans les arrière-arrière-petits-enfants, quelqu'un écraserait le serpent. Et ça, c'est Jésus à la croix. Que le Seigneur nous donne de bien écouter les paroles de l'Évangile pour comprendre le Christ. Amen. Je vous laisse encore un verset, c'est au verset 37, que je n'ai pas encore lu. Verset 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier, capitaine romain, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur et de Jose. Là, nous pouvons le dire, nous avons affaire à Marie mère de Jésus et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Amen. Beaucoup de sobriété dans la mort de Jésus. Mais il y a quelque chose, un détail qui n'est pas anodin, c'est son cri. Avez-vous déjà vu des mourants crier, hurler? Non. On ne meurt pas quand on est à la faim, à l'agonie. Les crucifiés ne criaient jamais, jamais. Pour la simple raison qu'ils étaient tous dans l'épuisement et dans l'agonie, dans les délires, la langue gonflée qui collait au palais et qui ne permettait plus d'ouvrir la bouche. Ils n'avaient plus de mots, ils n'avaient plus de cris. Ils n'avaient plus rien qui sortait de leur bouche. C'est quand on entre dans la vie qu'on crie, non? Vous rappelez-vous ce cri? J'arrive! Préparez-vous! Oui, j'ai crié, je ne m'en souviens plus, bien sûr. C'est quand on entre que l'on crie. Mais Jésus, en sortant, il a crié. Et j'imagine que Jésus, je sais que Jésus a crié en naissant, en quittant le corps de Marie, non? Il a dû avoir ce cri dans les tables de Bethléem. Le petit est né. Est-ce un garçon ou une fille? C'était un garçon. Mais que signifie ce cri qui sera suivi juste après d'une voix très forte qui dira « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Que signifie ce cri? Il y a un sens. Est-ce une douleur, une angoisse, une profondeur extraordinaire parce qu'il est dans la vallée de l'ombre de la mort et il est abandonné du Père en cet instant encore? Est-ce une détresse qu'on ne peut pas exprimer sinon que par un cri? On ne peut pas se confier à personne. Mais ce cri montre sa force. La mort ne le prend pas. Voilà. Comme elle vous prendra, comme elle me prendra un jour. Elle ne le prend pas. Il donne sa vie de lui-même. Père, je remets mon esprit entre tes mains. c'est même pas le cas des suicides, où les gens disent « moi je ferai ce que je veux ». Mais quand on commence à tomber dans la mort, on ne fait plus ce qu'on veut. Et on ne donne pas sa vie là. On l'éjecte, on la méprise, mais on ne la donne pas à qui ? Ce cri, mes amis, ce cri qui a réveillé Lazare qui était mort dans son tombeau, au cri de Jésus, Lazare sort, Lazare est sorti du tombeau. Avec ce cri, j'ai l'impression qu'il entre dans la mort, il quitte la terre. Pour moi aussi, c'est un cri de victoire. Juste avant, il avait dit « tout est accompli ». Un cri de victoire. Savez-vous, mes amis, que au cri de Jésus, à la parole de Jésus, nous ressusciterons un jour ? Il nous réveillera de notre mort. Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. Elle se lève. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le jeune homme de Naïn se lève. Je vous parlerai un jour. Et vous entendrez sa voix et vous sortirez du sépulcre. Je veux dire de la mort. Que Dieu soit glorifié. Tout là-haut, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de cri. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de larmes. C'est beau. Festif. C'est joyeux. C'est reposant. En criant, on pourrait penser qu'il signale sa mort au monde. Il y avait des peuples devant lui. Des peuples, les Juifs sont venus à Pâques de partout, de tout l'Empire romain. Et devant tout le monde, il signale sa mort au monde. À moi de crier, à vous aussi de crier, la bonne nouvelle pour réconforter les cœurs blessés, réjouir les affligés. Amen. Il faut crier. Faut pas casser, il faut crier seulement. Le prophète Ésaïe, un jour, il a entendu le Seigneur lui dire « Crie !» Quoi ? Parce que maintenant, il y en a qui crient dans les rues, on ne sait pas pourquoi ils crient. Ils ne savent peut-être même pas pourquoi ils crient. Certains le savent, bien sûr. Et le prophète a dit « Mais qu'est-ce qu'il faut que je crie ?» Crie que la servitude est finie. Crie que le péché est réglé. Ésaïe, chapitre 40. Crie qu'il faut préparer au désert de vos cœurs un chemin pour l'arrivée de votre Seigneur. Crie que toute chair est comme l'herbe, mais que tous verront le salut de Dieu. Amen. Crie que le Seigneur vient. Ésaïe 40. Eh bien, je finis avec ce cri. Viens à la croix et contemple là le portail du ciel. Contemple le portique de l'amour de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais ça, je pense, avec les années qui passent, qu'un homme est capable de le faire. Il y a des femmes qui l'ont fait pour leurs enfants, à petite dose ou rapidement. Mais quand on s'appelle Dieu dans le ciel, donner sa vie pour des fourmis que vous êtes et que je suis, ça on ne comprend pas très bien. Ça c'est le grand amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous conduise à la croix, vous guérisse, vous pardonne, vous transforme. La croix, c'est le levier qui permet à l'homme de monter vers Dieu. La croix, c'est ce qui permet à Dieu de descendre dans le cœur des hommes. La croix, c'est le chemin qui nous relie avec le Seigneur. C'est le pardon donné. C'est la vie donnée. Je prie pour vous. Nous nous tenons devant toi, Seigneur, parce que la croix est toujours dressée, son histoire, sa signification sont toujours dressées comme une bannière sur la colline au-dessus de nos larmes, de nos chagrins, de nos crises, au-dessus de toutes les fautes qui accablent notre tête et notre cœur. La croix est toujours là, comme étant l'image, la porte de la libération de Dieu. Seigneur, touche chacun d'entre nous cet après-midi dans son être profond, dans ses questionnements, dans tout ce qui en lui s'agite et se trouble. Seigneur, mets ta lumière qui vient de la croix sur chacun de nous et redonne-nous ce message. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai pris sur vous le poids de vos péchés. J'ai pris sur vous votre châtiment, vos offenses et vos souffrances. Nous voulons apprendre à te faire confiance dans la simplicité de notre cœur. Apprendre à nous décharger sur toi avec des paroles simples. Nous décharger sur toi de ce qui écrase notre espérance, nos joies et nos projets d'hier. Sans ta croix, nous sommes encore dans les ténèbres épaisses. Et rien ni personne ne pourrait nous élever. Ni la gentillesse de nos amis, ni les efforts de notre volonté, ni notre vie droite et juste à nos yeux. Personne ne pourrait nous sortir vers la lumière. La croix a déchiré les ténèbres, a fait reculer le malin, a triomphé sur l'enfer. Elle a triomphé sur le péché. Elle nous accorde avec Dieu. Elle nous met dans le bon chemin vers Dieu. Ta croix, c'est la clé, c'est l'échelle, c'est la route, c'est la main tendue. Ta croix, c'est la porte ouverte. Ta croix, c'est ton cœur ouvert. C'est l'amour sans fin, sans limite, sans borne de notre Dieu qui touche la terre à Golgotha. Amen. Merci Seigneur.